France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Mère vous fasse du lundi au vendredi jusqu'à 11h. Et ce matin, on s'intéresse aux maladies psychosomatiques, maux de ventre, céphalée, insomnie, troubles de l'érection, vaginisme, eczéma, psoriasis, colopathie fonctionnelle, tachycardie, douleurs vertébrales, douleurs dans le dos, nausées, crampes, toux sèche. Voici quelques exemples de troubles psychosomatiques sans cause forcément organique. Ces maladies souvent mal comprises et qui montrent à quel point le cerveau interagit avec notre corps pour former un tout. D'origine psychique, ces troubles affecteraient près d'un tiers de la population d'origine psychique, mais il s'agit de véritables douleurs physiques que l'on n'arrive pas à relier à une cause organique. On se demandera notamment ce matin si le Covid long peut être considéré comme une maladie psychosomatique, ce qui n'est plus le cas de la fibromyalgie. C'est donc l'occasion ce matin de revenir sur le dualisme corps-esprit qui semble désormais dépassé. Alors comment soigner ces troubles psychosomatiques? Comment soulager celles et ceux qui en souffrent, qui souffrent bien souvent d'une errance diagnostique? Élément de réponse avec nos experts. Et vous, souffrez-vous d'un trouble psychosomatique? Avez-vous eu l'impression de ne pas être pris au sérieux par le corps médical? Le standard et WhatsApp vous sont ouverts au 01 45 24 7000, sans oublier vos messages sur l'appli Radio France en utilisant le bouton réagir. Bienvenue dans Grand Mère vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rebbi.
Bonjour docteur Aurélien Benoualide.
Bonjour.
Vous êtes neurologue à Strasbourg, président du Forum européen de bioéthique, et vous aviez publié en 2019 un excellent essai sur notre sujet du jour. Non, ce n'est pas que dans votre tête, disponible en poche chez Marabout. Et par ailleurs, vous publiez un roman Risette, un roman de zombies. Hein ?
Exactement, le corps-esprit dans toutes ses dimensions.
Bonjour docteur Adrien Chaboch.
Bonjour Annie.
Vous êtes médecin généraliste et psychothérapeute à Paris. Vous avez fondé un cabinet de médecine générale et intégrative, le Centre Vitruve. En quelques mots, qu'est-ce que la médecine intégrative ?
La médecine intégrative, c'est d'allier le meilleur de la médecine conventionnelle, c'est-à-dire l'état des recherches, l'état des traitements les plus avancés, les plus modernes, avec le plus grand nombre de preuves, mais de l'allier aussi à une approche non médicamenteuse, avec des pratiques évidemment vérifiées. Alors ça va commencer par la nutrition et le sport, tout simplement, et puis aussi des pratiques qui peuvent avoir été étayées scientifiquement, comme par exemple l'hypnose pour la douleur, la sophrologie pour la relaxation, la cohérence cardiaque, des choses très simples.
Docteur Aurélien Benoualide, qu'est-ce qu'un trouble, une maladie psychosomatique? En interrogeant des amis ce week-end, eh bien la réponse la plus fréquente était « ce sont des maladies imaginaires ».
Oui, c'est malheureusement ce qu'on entend trop souvent et c'est ce qui fait beaucoup de tort d'ailleurs au mot psychosomatique, si ce n'est que déjà il met en perspective le corps et l'esprit, ce qui est déjà un problème en soi. Mais oui, les symptômes ou les maladies psychosomatiques, ce sont des manifestations du corps qui sont totalement réelles, absolument réelles, 100% réelles, mais qui ne sont pas classiquement liées à des lésions qu'on observe dans les pathologies les plus courantes, celles qu'on apprend sur les bancs d'université.
Si je comprends bien, dans une maladie psychosomatique, il y a des symptômes, mais on n'observe aucune lésion sur l'organe désigné par ces symptômes.
Non, c'est ça, les examens restent muets, les médecins souvent restent muets aussi, et les patients, pas du tout, ils sont très énervés parce qu'effectivement, leurs symptômes sont réels. Alors, il y a différents cas de figure, mais le plus souvent, le fait de ne pas pouvoir observer la lésion, que ce soit au microscope, au scanner, à l'IRM, à la ponction lombaire ou quoi que ce soit, ça va générer beaucoup de frustration parce que il y a un certain nombre de médecins, de soignants qui vont effectivement avoir cette tendance à penser que finalement c'est dans la tête ou que carrément ça n'existe pas.
Docteur Chaboch ?
Oui, c'est vraiment le reflet en fait de notre construction de la science médicale, c'est-à-dire basée sur la lésion, c'est-à-dire l'anatomopathologie. On a un symptôme, on va le rattacher à un organe qui est lésé, on a donc une maladie, on va traiter cette maladie. Sauf que le terrain montre que c'est plus compliqué que ça, que c'est plus nuancé. Mais aussi avec des choses, il faut être très humble. C'est-à-dire qu'il y a aussi des maladies que nous avons compris en cours de route, alors que la preuve, au début, n'était pas visible. Et ça, c'est aussi le progrès scientifique qui va l'amener. Très très rapidement, on va citer évidemment l'exemple magistral de l'ulcère. L'ulcère, c'est une maladie à deux entrées. Ça peut être une maladie provoquée par un état de stress environnemental, donc par exemple en réanimation, mais pas que, aussi dans la vie courante. Mais pendant très longtemps, il n'y avait pas preuve d'un substrat causé par un facteur identifié. Et un scientifique s'est battu pour montrer qu'en fait, il y avait une bactérie. Et ça a changé complètement. Et là, c'est l'inverse, effectivement, de ce débat. C'est-à-dire que là, on a identifié qu'il y avait bel et bien une cause, une bactérie, mais ça n'enlève pas qu'il y a aussi, et c'est le continuum, et c'est tout le débat, une interaction psychique qui va avec, et ça montre bien qu'on est très polarisé. Soit il y a une cause avec une lésion, et on dit, voilà, c'est somatique, et on oublierait que ce soit psychique, alors qu'en fait, non. Soit on se dit, il n'y a pas de lésion, c'est mental, et on oublierait qu'il y a un corps, alors que ce n'est pas le cas non plus.
Petite précision sémantique, dans psychosomatique, il y a somatique, qui renvoie au corps.
Oui, moi juste pour réagir, je suis tout à fait d'accord, mais l'humilité ne doit pas confiner avec la médiocrité. C'est-à-dire qu'on a aussi souvent tendance aujourd'hui à dire, si on n'est pas capable de le prouver, alors on dit que c'est psychologique, ou on dit que ça a une participation psychique, et à ce moment-là, on dit, finalement ça vaut pas, c'est juste que c'est une pathologie qu'on ne connaît pas. Aujourd'hui, on a des éléments solides, on a des éléments de liens justement statistiques entre certains psychotraumas, entre certains syndromes douloureux chroniques tels que la fibromyalgie, l'endométriose, et en fait, il faut pouvoir aussi, à un moment donné, avoir les épaules de pouvoir dire à son patient qu'il y a là, dans le symptôme qu'il présente ou qu'elle présente, la manifestation de quelque chose d'inconscient, de quelque chose qui a effectivement attrait à son histoire, à son narratif personnel. Et aujourd'hui, la tendance commence à s'inverser un petit peu. On a tendance à dire, non, psychosomatique, on va déjà plus l'utiliser. On utilise des termes tels que troubles neurologiques fonctionnels qui sont complètement incompréhensibles pour les patients et qui permettent de nous cacher en disant, probablement que la médecine aujourd'hui n'a pas encore tout découvert. La médecine peut-être pas, mais la psychologie a découvert énormément d'aspects qui sont tout à fait fondamentaux et qu'il faut absolument connaître et pouvoir éduquer les enfants, éduquer les patients et les patientes à toute cette nouvelle forme de médecine.
Peut-on dire qu'une maladie psychosomatique est un trouble psychique qui se répercute sur le corps ? D'ailleurs, il existe de nombreuses expressions qui montrent le lien entre le psychisme et le corps, se ronger les sangs, se faire de la bile, avoir les reins solides, docteur Benoît-Lide.
Alors, il faut être très prudent. On a besoin de nuances pour pouvoir interpréter ce que c'est qu'une manifestation psychosomatique. Moi, j'aime beaucoup dire aux patients que tout l'entretien qu'on va avoir, tout le suivi qu'on va avoir, va aussi consister à ne pas mettre la personne dans une case. C'est-à-dire dans le cas de l'organique, dans le cas du psychique. Et parce que dans les deux cas, on aura nécessairement tort et on va forcément se fourvoyer dans une prise en charge qui ne sera pas la bonne. Donc, être très attentif. On n'est pas un corps et un esprit. Nous sommes un continuum absolument un détricotable de corps et d'esprit. On a tous une histoire avec des rencontres, avec des traumatismes qui vont venir modifier structurellement ce qui nous fait, pas seulement sur le plan du sens, mais aussi sur le plan atomique, j'allais dire, de ce qui nous constitue. Et à ce moment-là, on ne peut pas faire la part des choses. On a le plus souvent, en fait, une manière d'accueillir le symptôme, une manière d'accueillir les traitements, une manière de chroniciser le symptôme qui va être là très influencé par l'histoire et justement le narratif du patient et de la patiente. Mais il faut faire très attention à ne pas mettre les gens dans des cases et à ne pas dire que c'est uniquement psychique ou uniquement organique. Là, c'est la porte ouverte pour tous les problèmes.
Tout de même, peut-on dire que certains métabolisent leurs tensions émotionnelles je pense par exemple à un stress intense qui peut provoquer des plaques rouges sur la poitrine, qui peut provoquer une migraine, des crampes d'estomac.
Évidemment, à partir du moment où on est soumis à un stress important, on va avoir une posture, on va avoir des contractures musculaires, on va avoir une sécrétion d'acide dans l'estomac, ça c'est que pour les choses qui sont les plus connues, mais il va y avoir des modifications hormonales, endocriniennes très profondes qui peuvent générer à moyen terme ou à long terme des symptômes ou des maladies.
Docteur Adrien Chaboch.
Oui, c'est ce que ça amène, comme l'a très bien dit mon confrère, c'est un changement de regard sur notre considération du patient. La considération et le respect du patient. Et ça a amené, au cours du XXe siècle, des auteurs, notamment Carl Rogers, qui est un psychologue humaniste, a amené à se dire, on ne va pas être centré que sur la maladie, mais on va être centré sur l'individu, c'est-à-dire son entièreté, le corps, oui, l'esprit qui est un continuum, comme disait Merleau-Ponty, ce n'est pas « j'ai un corps », mais c'est « je suis un corps » pleinement, mais aussi l'environnement. Et nous sommes en permanence en interaction avec notre environnement, que ce soit des facteurs extrinsèques qu'on ne maîtrise pas tellement, comme les polluants, comme la météo, comme ça agit sur notre corps, mais aussi notre rapport à notre environnement, c'est-à-dire de quelle manière nous allons nous adapter. Et ça, c'est les théories du stress adaptatif. De grands auteurs et de grandes recherches ont été faites, Hans Selye par exemple, pour ne pas le citer, Stephen Porges aussi plus récemment, sur la théorie vagale, c'est-à-dire comment est-ce qu'on interagit, et dès lors qu'on est exposé exposé même émotionnellement à quelque chose, c'est dans notre substrat, c'est dans des choses de nos nerfs, très mécaniquement aussi, mais aussi dans nos émotions.
Docteur Benoualid.
Oui, oui, je suis tout à fait d'accord. C'est vraiment l'approche intégrative est probablement l'approche qui se rapproche le plus de la réalité et de la vérité.
Avant d'accueillir Delphine, pouvez-vous nous dire quels sont les troubles psychosomatiques les plus fréquents ?
Il me semble que de loin, ce sont les douleurs chroniques. C'est-à-dire qu'on, bien sûr, je vois passer en consultation à peu près l'ensemble du panel des symptômes existants, me semble-t-il. Comme vous en avez parlé pour introduire la chronique, c'est tout à fait le cas. On observe des choses parfois totalement imprévisibles, des troubles visuels, des troubles de l'érection, du vaginisme, des problèmes alimentaires, des douleurs un peu partout.
Des colopathies fonctionnelles.
Des colopathies. Mais c'est vrai que le symptôme qui revient le plus souvent et qui revient de plus en plus souvent et qui pèse le plus lourd sur l'économie, de la santé, etc., c'est probablement les douleurs chroniques. Je ne parle évidemment pas des douleurs chroniques liées à la fin de vie, liées à la pathologie cancéreuse ou quoi que ce soit. Je parle des douleurs chroniques en tant que symptôme maladie.
Et nous accueillons Delphine. Bonjour Delphine.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Ali.
Bonjour. D'où appelez-vous Delphine ?
Moi j'habite à Argelès.
Alors quel est votre témoignage sur notre sujet du jour, sur les maladies psychosomatiques ?
C'est l'histoire de toute ma vie en fait. J'ai toujours eu mal partout, mais je n'avais rien. En fait, je n'avais rien. On me disait que j'avais rien.
C'est-à-dire que vous faisiez les examens médicaux, les analyses sanguines, etc. Et il n'y avait pas de lésion, il n'y avait pas d'origine organique à vos symptômes, à vos douleurs.
Voilà, donc j'étais migraineuse chronique. J'avais une colopathie fonctionnelle. Enfin, j'ai toujours, de toute façon, c'est difficile de... C'est difficile de guérir complètement, mais j'ai enfin mis le doigt dessus, là, depuis... ça fait 3-4 ans seulement que je me penche sur le sujet. Et maintenant, ce qui m'aide énormément, c'est le travail sur le corps, tout bêtement. Donc, je pratique la méditation de pleine conscience, le yoga, la thérapie. En fait, en apaisant le corps, on fait un peu calmer le mental. Parce que moi, voilà, c'est mon mental qui turbinait, comme beaucoup de monde. Et ça, ça date de, je pense, même avant ma conception. C'est quelque chose, je pense, qu'on a en soi. C'est dans l'ADN, je pense.
Un mot sur les colopathies fonctionnelles, c'est quoi, en quelques mots
Alors, c'est un grand tableau de syndromes douloureux, comme l'a dit mon confrère. Effectivement, on va revenir sur une base de douleurs qui va associer soit des douleurs du ventre, qui peuvent être de différents types. Ça peut être des spasmes, ça peut être des ballonnements, ça peut être aussi des troubles du transit, accélération du transit avec des diarrhées, ou bien l'inverse, des constipations. Et au sein de ce grand syndrome qu'on a à un moment donné mis comme étant une étiquette très très généraliste, en fait on s'est rendu compte que c'était très compliqué, qu'il fallait faire preuve de beaucoup d'exigences médicales et de rigueur pour comprendre, notamment par exemple à la lumière des compréhensions récentes du microbiote. On a bien identifié que certaines interactions avec certaines bactéries dans notre ventre, pouvaient entraîner des symptômes. Mais ce qui est fantastique, c'est qu'on a montré aussi par le microbiote que le microbiote avait un impact sur notre mental et sur notre morale, et notamment aussi dans des pistes de recherche scientifique sur les maladies mentales. Donc on voit vraiment que c'est toujours interactif, toujours. Et notre auditrice parle aussi d'une composante très importante qui est cette piste de l'épigénétique. L'épigénétique, ça serait qu'il pourrait y avoir des modifications de notre matériel génétique dans notre corps pendant la grossesse, quand on est dans le ventre de notre maman, ou bien dans les très courts temps au début de la vie, ou bien au cours de la vie, qui pourraient impacter notre vie, notre équilibre, et peut-être favoriser dans certains cas certains symptômes, dont la douleur, mais pas que.
Docteur Benoualid.
Oui, c'était très intéressant ce qu'on vient d'entendre et ce qu'a dit mon confrère aussi. C'est-à-dire, moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a l'aspect mental, il y a l'aspect transgénérationnel, et elle a même évoqué l'ADN à un moment donné. Et là, on vient de parler d'épigénétique. Moi, je voudrais juste réagir par rapport à l'idée de l'épigénétique, qui est une discipline absolument fascinante et qui ouvre nombre de perspectives de recherche et de traitement. Mais je voudrais quand même dire aussi qu'aujourd'hui, on met sur l'épigénétique énormément de choses. C'est-à-dire, l'épigénétique, c'est finalement la transmission héréditaire, mais non directement liée au matériel génétique, mais à la manière dont le matériel génétique va être plus ou moins compacté, qui se transmet sur une ou plusieurs générations. Donc il y a quelque chose d'héréditaire, il y a quelque chose de très fiché dans l'ADN et qui serait peut-être à l'origine de l'explication de tout. Je voudrais dire que, évidemment, l'épigénétique existe, loin de moi l'idée de pouvoir en faire la critique, mais en revanche, au-delà de l'épigénétique, il y a l'histoire individuelle et l'histoire transgénérationnelle. Ce qui se transmet des parents aux enfants, des arrière-grands-parents aux enfants, il y a effectivement peut-être des traumas, certainement des traumatismes avec des modifications de compaction de l'ADN par rapport aux protéines de l'histone, c'est l'épigénétique. Mais il y a aussi des histoires qui se racontent et des histoires qui ne se racontent pas et qui vont occasionner de véritables troubles. Et ça, c'est quelque chose qui est très présent en consultation et qu'on retrouve très régulièrement.
Delphine, avez-vous eu l'impression de ne pas être écoutée suffisamment par le corps médical et est-ce que vous avez vécu une forme d'errance diagnostique ? Delphine ?
Oui, oui, ça a duré des années, l'errance, c'est sûr. On m'a catalogué dans les cas psychiatriques, forcément. Et après, moi, je me suis penchée sur le microbiote. Donc, c'est vrai qu'on peut aider et calmer le microbiote avec l'alimentation. Mais c'est vraiment, là, maintenant que je suis dans la méditation de pleine conscience, comme Christophe André le préconise, là, vraiment, je comprends. Là, je comprends qu'on peut avoir, nous, un levier pour nous aider nous-mêmes à nous apaiser, ça c'est clair.
Aurélien Benoulid.
Elle a aussi dit à un moment donné que les médecins lui ont dit tout va bien. Vous vous rendez compte un peu de la violence que c'est pour quelqu'un qui vient avec un symptôme invalidant au point de parfois ne pas pouvoir travailler ou mener une vie affective normale, s'entendre dire tout va bien quand tout va mal, c'est certainement une grande catastrophe.
Dans un instant, on va accueillir Amélie qui nous a appelé au 01 45 24 7000. On se demandera également si le Covid long peut être considéré comme une maladie psychosomatique, ce qui n'est plus le cas de la fibromyalgie. On y reviendra dans un instant. On écoute Janis Joplin. Me and Bobby McGee, une chanson sortie en 1971, 10h21 sur Inter. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and us feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way into New Orleans. Sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. Yeah, feeling good was easy love when he sang the blues. You know, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby. Janis Joplin interprétait Me and Bobby McGee.
Grand bien vous fasse.
Je suis pas bien portant. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?
Pour l'instant, rien du tout.
Rien, c'est-à-dire ?
En tout cas, arrêtez le Néparil. C'est un conseil que je vous donne.
Ali Rebéi.
C'est aberrant pour moi de donner ça.
Oui, mais alors on sait plus qui est qui.
Alors, si vous voulez m'écouter, vous prenez votre boîte de Néparil et vous l'achetez à la poubelle.
Sur France Inter.
Et dans Grand Bien vous fasse ce matin, comment soigner les maladies psychosomatiques avec le neurologue Aurélien Benwalid et le médecin et psychothérapeute Adrien Chaboch. Docteur Aurélien Benwalid, j'ai souvent entendu parler de troubles neurologiques fonctionnels pour parler des maladies psychosomatiques. J'ai l'impression qu'on a du mal à nommer les troubles psychosomatiques.
On a beaucoup de mal à nommer les choses. C'est vrai qu'aujourd'hui, les TNF, pour troubles neurologiques fonctionnels, on le vend en poupe et c'est un terme qui est ma foi pas non plus mauvais, mais qui dit pas grand chose, notamment pour les patients. En fait, ça donne une assise scientifique un petit peu, c'est-à-dire qu'on parle de cortex, on parle de réseau, ça donne l'impression d'un diagnostic sérieux, là où avant, le diagnostic de troubles psychosomatiques était à la fois très culpabilisant, on pourra certainement en reparler, mais aussi faisait la distinction entre le corps et l'esprit. On a vite fait de dire effectivement que c'est dans la tête des patients et qu'en fait ça n'existe pas quand on a le terme psychosomatique. Donc trouble neurologique fonctionnel, très à la mode actuellement, ça dit, mais ça dit pas tout.
En quoi c'est culpabilisant pour le patient ?
Mais parce que le patient, les patients et les patientes ont l'impression que finalement, c'est dans leur tête. C'est-à-dire qu'ils se sont eux-mêmes généré ces symptômes, et donc ils ont l'impression que c'est de leur faute. Et ça les pèse énormément. Et quand bien même on peut être amené à l'expliquer, ça revient quand même très régulièrement. Certainement aussi parce que l'entourage, les médecins et la société de manière générale a un peu tendance à laisser penser que ce serait une faiblesse.
Docteur Chaboch.
Oui, je crois qu'il faut vraiment avoir une responsabilisation, une implication des médecins. On ne peut pas se permettre à un patient auquel on fait des examens éventuellement biologiques ou d'imagerie, on n'a pas de résultat qui montrerait une lésion d'organe comme on en a dit, on ne peut pas se permettre de leur dire, écoutez, c'est dans votre tête, vous n'avez rien, détendez-vous, ma petite dame souvent, ça va vous faire du bien. Comme si le patient ne pouvait pas se rendre compte de lui-même qu'il pouvait être tendu, mais il a besoin d'aide et on ne peut pas réfuter la parole d'un patient. Il n'y a jamais un patient qui vient dans une consultation pour rien.
Et j'aurais même tendance à dire que la peur doit changer de camp, c'est-à-dire qu'en réalité, parfois, les symptômes psychosomatiques sont liés à des agressions, sont liés à la violence de la société. Il faut bien avoir conscience que la culpabilité ne se situe pas forcément à l'intérieur, mais parfois aussi à l'extérieur. Ça ne doit pas être une manière de se résigner ou de se plaindre, mais ça doit être une manière de considérer l'origine du mal.
Je m'adresse au médecin généraliste. Comment ça se passe ? Vous prescrivez une batterie d'examens, des bilans sanguins après la plainte d'un patient et on ne trouve rien, alors que le patient continue à se plaindre.
Oui, on est sur la base d'un raisonnement médical qui doit être pensé, renouvelé, modernisé. C'est-à-dire que moi, quand j'ai étudié, on nous disait il faut exclure toutes les causes, toutes les étiologies, toutes les causes des maladies en faisant des examens avec un arbre décisionnel. Bon, ça d'accord, c'est un raisonnement prouvé sur la science. Et s'il n'y a rien, alors c'est psychiatrique. Mais pas du tout. C'est d'emblée avec les émotions et la vie émotionnelle et la vie intime et la construction de l'individu et sa singularité. Donc la prescription d'examen peut même être ne pas être faite si on est avec un patient dont on comprend qu'effectivement les manifestations, par exemple d'une douleur chronique, on n'a pas de marqueur de la douleur chronique. Et on peut, avec un raisonnement sérieux et rigoureux, ne pas entrer dans une voie de la surexploration qui est à la fois coûteuse économiquement, coûteuse pour le patient parce qu'on l'expose déjà à des effets secondaires possibles, et il faut être rationnel.
Docteur Benwalid.
Et les mots ont un sens, c'est 15 à 20 millions de patients en France, et nous on a été biberonnés en tant que médecins à deux termes, c'est le diagnostic d'exclusion et le diagnostic d'élimination.
C'est-à-dire ?
Vous voyez que les termes utilisés, que ce soit l'exclusion ou l'élimination, c'est-à-dire une fois qu'on a éliminé ou exclu les autres diagnostics possibles, à ce moment-là, ce qui reste au fond de la poubelle, c'est l'origine potentiellement psychique des symptômes.
Et nous accueillons Amélie. Bonjour Amélie.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Alors... de mon côté, j'ai été sujette à des infections urinaires pendant une dizaine d'années. Mmh. Effectivement, comme le disaient vos invités, j'ai creusé dans une voie entre guillemets médicale, c'est-à-dire avec toutes les analyses qui convenaient, cystographie et compagnie, qui sont très invasives, forcément. Il n'y avait rien. Par contre, j'avais des infections qui étaient quand même avec des marqueurs biologiques classiques. Mmh. Pas toujours d'ailleurs, c'est ça qui était un peu ennuyeux. Alors par contre, je me suis pas sentie mal à l'aise avec l'idée de comprendre que ça venait peut-être d'autre part que d'une origine purement physique. Alors grâce à un ami, j'ai rencontré un très bon acupuncteur qui m'a énormément aidée. Évidemment, je me suis sentie aussi écoutée, épaulée. Et par la suite, en creusant de mon côté, j'ai étudié la piste de la psychosomatisation par rapport à cette sphère intime. Et la psychothérapie m'a permise, enfin je pense en plus d'autres choses, de venir à bout de ces infections urinaires qui avaient été jusqu'à une pyélonéphrite, donc ça commençait à devenir un peu ennuyeux. Voilà.
Docteur Aurélien Benoili, de comment des infections urinaires peuvent avoir une origine psychosomatique?
Alors, il peut y avoir plusieurs cas de figure. Je ne suis pas spécialisé dans les problèmes de cystite, mais ce qui est vrai par rapport au témoignage qu'on vient d'avoir, c'est que quasiment chaque organe peut être sujet à des maladies chroniques d'origine psychosomatique. Alors, je ne sais pas si ça a été, ça a certainement été évoqué pour la dame ici présente, mais c'est ce qu'on appelle notamment les cystites interstitielles. Mais en réalité, que ce soit sur le plan cardiologique, que ce soit sur le plan des articulations, des yeux, la colopathie fonctionnelle pour les hépato-gastro. Et il y a à chaque fois des diagnostics avec des noms parfois un peu complexes, mais qui parlent finalement d'une manifestation chronique dont on a du mal à identifier la cause. Alors évidemment, on en a parlé avant, le microbiote, c'est dans le tube digestif, mais pas seulement.
Hein, et le microbiote vaginal aussi.
Nous sommes colonisés de toutes sortes d'habitants qui nous composent et qui sont autant de bienfaits et parfois aussi de source de déséquilibre. Donc je crois qu'il ne faudrait pas simplifier les causes. Il y en a énormément. Ce qui est certain, c'est que le diagnostic est là, c'est qu'effectivement il peut y avoir des risques de complications, et ça peut même mettre en jeu le pronostic vital, et il faut prendre ça très au sérieux.
Docteur Chaboch,
prenons un matériau, n'importe lequel. Si vous l'exposez à des forces de contrainte, à un moment donné, le matériau, il a une résilience, c'est-à-dire qu'il va absorber cette contrainte, cette force qu'on lui impose, et à un moment donné, ça va casser. Et bien dans la biologie du vivant, évidemment, on ne casse pas, quoique parfois on casse aussi un mental, mais il peut y avoir une altération de certaines zones du corps. Pourquoi certaines zones plus que d'autres? Parce que nous avons des facteurs individuels de force et de fragilité. Ça peut être anatomique, ça peut être psychique, ça peut être dans l'éducation, ça peut être un ensemble très complexe, très subtil, qui rend compte aussi de la singularité de chaque personne. C'est ce que nous devons aller chercher en consultation. Alors parfois, des personnes qui vont être exposées à des choses, des épreuves, donc qui peuvent traumatiser, on ne va pas pouvoir réussir à s'adapter à quelque chose que l'on vit, va impacter le corps par le système de l'hypothalamus, de l'hypophyse, qui va amener la sécrétion de cortisol. Ce cortisol va créer une inflammation de bas grade. Ce n'est pas une inflammation qu'on voit nécessairement à la biologie, sauf avec certains marqueurs, comme par exemple la CRP ultra-sensible. Mais on ne la demande pas à tous les coups, je vous en prie. Mais on peut quand même la documenter. Et lorsqu'il y a cette inflammation de bas grade, c'est associé effectivement à des atteintes du corps. Ça peut être le système cardiovasculaire en première ligne avec des maladies des vaisseaux, comme un infarctus par exemple, mais ça peut être aussi des zones spécifiques. Et par exemple, pour vous donner un exemple très d'une illustration d'un patient qui avait vécu un traumatisme dans l'enfance, il avait encodé ça, mais sans trop s'en rappeler, c'était pas nommé complètement, ça faisait partie de son histoire. Bon, et il avait une zone de fragilité et de dissociation uniquement sur une partie du corps là où il avait été opéré. C'est-à-dire que à cet endroit-là, il ne sentait pas son corps. Il le sentait sur le reste, moins certes, mais à cet endroit-là, il était comme anesthésié.
Merci beaucoup Amélie de nous avoir appelé et nous accueillons Charlotte. Bienvenue Charlotte dans Grand Bien vous fasse.
Oui, bonjour. Bonjour Ali.
Bonjour.
Vous m'entendez ?
On vous entend très bien Charlotte. D'où appelez-vous ?
Super, j'appelle de Paris.
Alors vous nous avez dit au standard que vous étiez une spécialiste des maladies psychosomatiques.
Oui, enfin, j'ai expérimenté, on va dire, plusieurs d'entre elles, à la fois de la tachycardie, des pertes de cheveux assez importantes, voire même totales pour la première, des vertiges, donc voilà, je commençais à avoir fait, on va dire, quelques expériences de maladies somatiques.
Et est-ce que vous en connaissez les causes? J'imagine que vous avez peut-être fait des batteries d'examens, de bilan sanguin. Que donner justement ces examens et que vous disent les médecins que vous avez consultés à l'époque pour ces divers désagréments?
Mais en fait, souvent, les analyses ne traduisent pas vraiment les symptômes. Enfin, généralement, tout va bien. Je sais que, par exemple, pour la pelade, on avait beaucoup regardé s'il n'y avait pas des carences. Mais a priori, tous les examens sont plutôt bons. Par contre, on en arrive souvent à la conclusion que c'est probablement le stress qui vient générer ça. Notamment puisque, par exemple, les pelades ont été plutôt générées par des chocs, soit un accident, soit un divorce ou autre. Donc le stress semble plutôt à l'origine en fait de ces mots. Et c'est le corps qui parle finalement. Et donc la question souvent que je me pose, c'est comment bien l'écouter, comment moi je peux arriver en fait à apporter une réponse et à éviter ces somatisations.
Très très bonne question Charlotte. Juste un point sur le lien entre le stress chronique des chocs émotionnels et la survenue de pathologies comme celle vécue par Charlotte, des pelades ou d'autres troubles.
Et bien là aussi les circuits sont très variés, mais le stress chronique via l'axe hypothalamo-hypophysaire, les circuits du cortisol va induire à long terme des modifications structurelles et pour le coup d'authentiques lésions. Et c'est vrai que ça peut avoir une influence sur nombre d'organes. Ça peut provoquer des pelades, ça peut provoquer même des blanchiments des cheveux. Enfin, je veux dire que le stress aigu puisse apporter des complications, c'est bien connu. Mais le stress chronique, celui qu'on ne sait pas forcément nommer, l'est tout autant.
Docteur Chaboch.
Et il y a d'autres marqueurs. Il y a le cortisol, il y a des interférons, il y a des cytokines. Je veux dire, ça, c'est pour s'asseoir aussi sur quelque chose où, certes, on ne le fait pas en pratique courante, mais c'est une réalité. Et cette réalité biologique n'enlève en rien au fait qu'il y ait cette vie émotionnelle qu'il faut accueillir. Comment aborder cette question, comme avec cette auditrice, comment la nommer, comme on vient de le dire, c'est d'abord la responsabilité du médecin d'accueillir. Ça va le mettre dans une situation d'inconfort, parce qu'il va avoir l'impression peut-être d'être dans l'incertitude, peut-être de ne pas savoir, d'être en dehors de ses voies cognitives, son façonnage mental à lui habituel. Mais il y a un devoir du médecin d'être à l'écoute et de ne pas être dans le jugement, d'avoir des mots pour dire « je reconnais votre douleur, votre plainte, on va en parler ».
Ça force l'humilité, hein, le nombre de fois où en consultation on est amené à dire qu'on ne sait pas ou qu'on ne sait pas bien. Parfois ça génère, et puis ça peut souvent générer même en face des réactions de colère, voire même de violence, qui sont tout à fait compréhensibles, qui sont liées à la frustration qu'on peut avoir vis-à-vis du corps médical. Mais effectivement, ce ne sont jamais des diagnostics qui nous mettent, nous les médecins, dans une situation de force, sachant que les médecins aiment bien parfois être les sachants. Là, en l'occurrence, le sachant, c'est souvent le patient.
Comment aider Charlotte ? Ça demande comment faire pour qu'elle puisse anticiper au mieux ces périodes de stress ou de choc émotionnel qui ont des répercussions sur son corps, sur sa santé?
Je crois que le plus important, c'est effectivement d'avoir une prise en charge qui va être très transversale. En même temps, on ne dit rien quand on dit ça, mais elle le dit elle-même, elle commence aussi à être à l'écoute. Je pense que le travail de reconnexion à soi est particulièrement important. Il peut se faire par différentes stratégies, mais le fait de pouvoir déjà ressentir ses émotions, mettre des mots et puis résoudre un petit peu ce sentiment de culpabilité qu'on peut avoir envers soi-même ou de colère qu'on peut avoir envers les autres, c'est déjà faire un premier pas. Mais après, je pense que la dimension thérapeutique est très vaste.
Merci beaucoup Charlotte de nous avoir appelé. Dans votre livre, non, ce n'est pas que dans votre tête, docteur Aurélien Benoualid. Vous dites que la médecine ne prend pas assez en compte cette part, je vous cite, la médecine ne prend pas assez en compte cette part mystérieuse de notre humanité, omniprésente, observable, évidente, qui pourtant demeure invisible, recluse dans une forteresse silencieuse et inviolable.
Oui, moi, plus j'avance dans mon expérience professionnelle et humaine, plus je prends en considération une dimension qui peut paraître un peu étonnante au premier abord, c'est la dimension du corps magique. Je pense que le corps est probablement le dernier bastion où s'exerce encore de la magie, c'est-à-dire pas de la magie au sens strict, vous l'imaginez bien, je suis médecin, je suis scientifique, mais une magie au sens où on n'est pas en mesure de pouvoir expliquer ce qui se passe sans passer par le pouvoir des mots, par le pouvoir du sens. Et ça, c'est quelque chose qui n'appartient pas seulement au registre de la fantaisie, c'est quelque chose qui appartient au registre de la consultation de tous les jours. Et on parlait de miracle avant, c'est vrai qu'on a souvent en tête les guérisons miraculeuses. Il ne faut pas oublier que le miracle a deux faces. Il y a à la fois les guérisons miraculeuses qui malheureusement sont quand même relativement rares, mais il y a beaucoup plus souvent des pathologies miraculeuses, c'est-à-dire des pathologies dans lesquelles on ne voit rien. Et au lieu de dire il n'y a rien, tout va bien, ce qui est catastrophique, il faut peut-être accepter aussi cette dimension magique du corps.
Je vais me faire un peu l'avocat du diable. Certains pourraient vous reprocher de reprendre le narratif de certaines pseudo-médecines et thérapies parallèles qui jouent sur ça, sur le fait que la médecine ne vous écoute pas et nous allons vous écouter dans votre dimension psychique, psychologique, émotionnelle, alors que la médecine ne le fait pas suffisamment.
Alors vous avez tout à fait raison, mais moi la différence c'est que je ne joue pas. moi je suis médecin, je suis neurologue, ça fait maintenant un certain nombre d'années que j'essaye en tout cas d'aider les patientes et les patients qui viennent me voir dans des consultations de douleur. J'ai bien conscience que ce qu'ils nous confient, c'est ce qu'il y a de plus précieux dans leur existence, c'est-à-dire leur santé, et donc je ne joue absolument pas. Mais quand je parle de corps magique, c'est simplement pour dire qu'il y a des voies qui sont inexplorées aujourd'hui et qu'il faut absolument explorer si on veut pouvoir résoudre les symptômes, ce qui est tout à fait possible et ce qu'on voit au demeurant en consultation également.
Docteur Chaboch.
Voilà, le danger, c'est le surinterprétatif, c'est l'interprétatif dogmatique. On peut se dire pourquoi j'ai mal au dos, à quoi ça me renvoie. Par contre, là, la vigilance, c'est quelqu'un qui vous dirait « vous avez mal au dos » parce que c'est ça et exclusivement ça d'un fait symbolique ou d'un fait d'interprétation du praticien, du thérapeute, qui l'affirmerait comme une vérité absolue générale qui s'impose. Et donc là, on entre dans un système d'emprise. On peut élaborer avec le patient, on peut se dire à quoi ça vous renvoie, à quoi ça vous fait penser, comment est-ce que le travail, est-ce que ça va, est-ce que... Ok, mais on est dans quelque chose qui préserve, qui respecte et qui donne de l'autonomie au patient, qui lui permet, lui, de trouver ses outils pour avancer.
Bonjour Olivia Recassin. Bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes directrice de la rédaction de l'excellente revue trimestrielle Oui Demain, en kiosque actuellement, à la une Habiter Autrement, et un article intitulé Soigner l'invisible. Vous avez enquêté sur ces troubles psychosomatiques et vous évoquez la détresse des malades, mais aussi des médecins qui peinent parfois à appréhender ces maladies psychosomatiques. C'est le cas de ce papier, Olivia Recassin.
Oui, c'est exactement ça. En fait, la détresse, elle est des deux côtés. Ce sont des patients qui sont donc réellement malades, mais qui n'ont pas de lésions détectables, hein, comme on l'a dit, et qui se retrouvent face à des médecins démunis ou le plus souvent sceptiques. Typiquement, c'est le radiologue qui rétorque à sa patiente, qui est percuse de douleur, je ne vois rien au scanner. Sous-entendu, c'est dans votre tête. Alors imaginez le tsunami que ça représente pour une personne qui souffre physiquement depuis des années. Et de l'autre côté, il y a des médecins qui croient ces malades, mais qui sont démunis. Comment les soigner ? Donc c'est une errance médicale. Le docteur, l'infectiologue Eric Combe, que nous avons interviewé à la Pitié-Salpêtrière à Paris, il raconte que pour ses patients, en fait ces patients, ils mettent en échec les médecins et spécialistes. Et donc on les invite à aller voir ailleurs. Il a un terme qui est très dur, il dit en fait on les renvoie un peu comme des patates chaudes. Donc voilà, et en même temps, ça met évidemment mal à l'aise le médecin, c'est pour ça que je parle de détresse des deux côtés.
Et Olivier Recassin, certains malades, certains patients refusent l'idée que leur maladie soit liée à des facteurs psychologiques liés à des mécanismes cognitifs, car ils estiment avoir une maladie forcément lésionnelle.
C'est tout à fait le cas pour certains patients et certaines associations de malades qui les soutiennent. En fait, je mets des guillemets évidemment, mais certains malades veulent qu'on leur dise qu'ils ont une vraie maladie pour ne pas être envoyés justement à cette idée de peut-être hypochondriaque ou de malade imaginaire qui est très péjorative.
Docteur Aurélien Benoilide.
Oui, c'est vrai que ça nous met parfois en difficulté. Quand le livre est sorti, non, ce n'est pas que dans votre tête, j'ai relativement rapidement quitté Twitter, aujourd'hui X, parce que j'avais osé évoquer dans le livre qu'il y avait un lien entre l'endométriose et les antécédents psychotraumatiques. Cela ne signifie absolument pas que l'endométriose est d'origine psychologique. C'est simplement un fait statistique et je pense que si on passe à travers ce fait, on n'est pas en mesure de pouvoir aider suffisamment les patients, mais effectivement, à ce moment-là, on a besoin, comme si aujourd'hui, il fallait que les choses soient polarisées, un peu comme sur la question de l'autisme, fut un temps, il faut que les choses soient polarisées, qu'on dise non, attendez, il n'y a aucune dimension psychologique, parce que sinon, vous allez culpabiliser les gens, alors que c'est totalement inepte de culpabiliser les gens quand il y a une origine psychologique, et donc ça, c'est cette tension qui existe effectivement aujourd'hui.
Docteur Chaboch.
Et c'est là où on comprend mieux effectivement la notion de système complexe, c'est-à-dire interactif. Le corps et l'esprit font un tout qui vont interagir en plus avec l'environnement. Ça, c'est toutes les théories qu'on a développées aussi depuis les années 70 par des observations. On peut citer le psychiatre Engels qui a parlé du modèle bio-psychosocial.
On va y revenir dans un instant sur les pistes pour soigner les maladies psychosomatiques et on recevra Jean-Pierre qui souffrait pendant longtemps d'eczéma. On se retrouve dans quelques instants après avoir écouté Benjamin Violet, Soleil profond, 10h44. Sur France Inter.
au soleil, une vallée de fleurs et de miel. Je dédie cette danse à l'amertume, à l'impudence, à l'habitude, à ce cœur lourd qui bat sous la brébus. Je dédie cette danse à ceux qui fument, à ceux qui boivent, à ceux qui hument, à ceux qui font des baisers à la russe. Soulevez la table et tout casser, brûlez la flamme sans s'immoler, coupez les câbles et puis laissez le vent des sables. Sacrifice au soleil, une vallée de fleurs et de miel. Je dédie cette danse à l'amertume, à l'impudence, à l'habitude, à ce cœur lourd qui bat sous la brébuste.
Benjamin Violet interprétait Soleil profond.
Grand bien vous fasse.
Je crois même qu'il y a une belle journée qui se prépare.
Ali Rebéi.
Ah bon ? Eh bien, grand bien lui fasse.
Sur France Inter.
Et dans Grand Bien vous fasse ce matin, comment soigner les maladies psychosomatiques en compagnie du neurologue Aurélien Benoualide et du médecin et psychothérapeute Adrien Chaboch. Une excellente question d'Alcina qui vous demande pourquoi en France il y a cette résistance des médecins au lien entre le corps et l'esprit.
Alors, je pense que c'est un fait historique et social qui est basé sur le développement de notre médecine dans l'ère de la grande ère de la pharmacologie depuis 1950. On a découvert les traitements les plus importants du siècle, mais ça a aussi extrapolé, ça a énormément construit une représentation lésion, maladie, médicament. Or, il y a des variants, il y a des registres différents qui vont inclure le symptôme dans la société. Je vous donne un exemple très très concret. Le long du fleuve Congo, il y a des groupes sociaux qui vivent, bon nombre. Dans certains de ces groupes sociaux, quand une personne âgée ou moins âgée va perdre une fonction, par exemple la vue ou l'audition, on ne va pas considérer dans ce groupe qu'il est handicapé. On ne va pas considérer qu'il est déficient. On va dire, s'il n'entend plus, c'est qu'il entend des choses que nous n'entendons pas. S'il ne voit plus, c'est qu'il n'a plus à voir ce que nous voyons parce que nous ne sommes pas assez sages. Lui, il voit d'autres choses et on va l'inclure dans la société comme étant à protéger et à écouter davantage. C'est un modèle qui est très différent d'une autre, qui se base évidemment sur une autre vision, je dirais, sociale et de la symbolique et de la représentation de la place du symptôme dans un groupe.
Et docteur Aurélien Benoualide, dans votre livre Non, ce n'est pas que dans votre tête, vous écrivez que tout se passe comme si la science et la technique occupaient tout l'espace disponible, comme s'il n'y avait plus besoin de recourir à la métaphysique pour combler nos lacunes. Pour vous, la médecine fondée sur les faits demeure une utopie aveugle sur ses propres angles morts.
Oui, c'est-à-dire que, alors nous, ici, nous sommes tous empreints de philosophie cartésienne, hein, je pense, donc
bien
je
sûr.
Suis. Donc il y a d'un côté le corps, d'un côté l'esprit. Le problème, c'est que l'esprit, vu qu'on n'arrive pas à le définir, on va le mettre un petit peu de côté. Là où parfois les philosophies plus orientales font, font justement la part belle au corps et à l'esprit, avec des approches médicales qui sont beaucoup plus ouvertes sur ces questions-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, non seulement on a une philosophie très cartésienne, mais en plus, les grands cadres de croyances qui sont aussi parfois des cadres structurants sont de moins en moins présents, que ce soit le cadre religieux. Je ne suis pas du tout pour un retour en force de la religion. On peut réinventer de manière laïque une philosophie du corps et de l'esprit, mais en tout cas ces cadres-là sont en train de chuter. Le cadre même politique de faire société est lui-même aussi en train de diminuer, et en fait ce qui reste, ce sont les gens seuls face à leurs douleurs, face à leurs symptômes, face à leur corps, et avec des difficultés pour se raccrocher à une philosophie du tout.
J'aimerais qu'on accueille Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre.
Bien le bonjour.
Bien le bonjour à vous également. Vous le dites, hein, Ostenor, vous êtes né il y a exactement 80 ans.
Oui, ça fera 80 ans dans 3 ans. Le même jour qu'Alice Donna et André Dussolier.
Ah, mais beau parrainage. Alors, vous souffrez d'eczéma, enfin en tout cas quand vous étiez enfant, c'est ça ?
j'ai souffert d'eczéma à partir de l'âge de 6 mois et pendant 20 ans.
Pendant 20 ans.
Et quand je me suis présenté pour le service militaire, j'avais un gros paquet d'ordonnances pour toutes les pommades que j'avais utilisées et on m'a exempté de service.
D'accord.
Sachant que je suis en plus issu d'une tribu de toubibs, le père, le grand-père, l'oncle et le cousin. Et mon père, n'ayant pas pu me soigner correctement, m'a emmené chez un dermato qui m'a donné toutes ses pommades. Et à 20 ans, maman me dit « j'ai quelque chose à te dire ». Ben, je t'écoute. « T'étais pas désiré au moment où tu es né, tel quel ».
Tel quel, bon. De façon aussi brutale.
Ah, tout à fait. Et bon, j'ai pris l'information parce que comme je fonctionne depuis toujours en pensée positive, j'en ai pas fait un drame. Mais ce qui est extraordinaire pour moi, c'est que dans les mois qui ont suivi, j'ai cessé de faire de l'eczéma. Et ce que j'ai trouvé, moi, extraordinaire aussi, c'est que ma conscience a pris conscience de ce que m'avait causé mon inconscient. Parce que si j'ai fait de l'eczéma à 6 mois, c'était forcément pas du conscient. C'est du psychosomatique au sens pur. Et depuis 60 ans, je ne fais plus d'eczéma grâce à cette information.
C'est très intéressant ce témoignage de Jean-Pierre, docteur Benoulid. J'imagine qu'il ne s'agissait pas d'eczéma de contact à cette époque.
Tout à fait.
Voilà, docteur Benoulid.
Oui, oui, c'est passionnant. Alors bien sûr, on ne peut pas tirer non plus de conclusions universelles et générales à partir d'un cas.
Mais sur le cas de Jean-Pierre.
Mais sur le cas de Jean-Pierre, je crois qu'on serait dans l'erreur que de dire que c'est simplement le fait du hasard. Il est évident que pour l'eczéma, il y a plusieurs terrains. Alors je ne voudrais pas faire de l'exercice illégal de la dermatologie, ce n'est pas mon métier. Mais voilà, il y a un aspect immunitaire, il y a un aspect émotionnel, mais c'est le cas dans quasiment toutes les pathologies. Et c'est vrai que l'eczéma, comme l'ulcère de l'estomac, etc., sont des manifestations très sensibles à des états de stress. Et l'état de stress, il est parfois lié à une information inconsciente. Et ça, c'est le seul point que je dirais, c'est que l'inconscient, c'est pas un peu conscient. Parce que les gens ont parfois l'impression, de quand on leur dit c'est inconscient, bah, en fait, c'est de ma faute, je suis en train de me générer ces symptômes. Non, quelque chose d'inconscient, c'est quelque chose qui n'est absolument pas accessible à la conscience. Donc il n'y a aucune forme de culpabilité. On n'est coupable de rien quand on n'a pas eu des informations, quand on a dû grandir dans un environnement où il nous manquait des briques pour se construire. Et c'est vraiment fondamental d'enlever toute culpabilité du symptôme inconscient.
Merci beaucoup, Jean-Pierre, de nous avoir appelé. Docteur Chabot, j'aimerais qu'on s'attarde juste quelques minutes sur le Covid long et la fibromyalgie. Est-ce qu'on les considère aujourd'hui comme des maladies psychosomatiques ?
Alors, tout dépend de la définition donc, de psychosomatique, parce qu'on a vu aujourd'hui qu'on a quand même beaucoup fait évoluer la pensée et de ce qu'on nommait.
Sur le Covid long
sur la fibromyalgie,
parce que la été prise au sérieux par le corps médical.
C'est 2 millions de personnes quand même en France à bas mot.
Il s'agit d'une pathologie liée à des modifications des processus de détection et de modulation de la douleur au niveau du système nerveux central et qui s'accompagne d'une sensibilité à la douleur plus ou moins longue associée à d'autres symptômes comme la fatigue, les troubles du sommeil et parfois l'anxiété.
Voilà, vous avez tout dit. C'est-à-dire que pendant longtemps, moi, quand j'étais dans les couloirs du CHU, quand j'étais en enseignement, j'entendais les médecins qui disaient bon, bah, ça c'est dans la tête, ils ont rien, ils sont un peu embêtants, etc., etc. Et en fait, on a découvert depuis 15 à 20 ans le mécanisme que vous venez de nommer, qui est l'hypersensibilisation centrale à la douleur. Il n'y a pas de lésion. On ne comprend pas pourquoi on a des facteurs théorique, hypothétique, de pourquoi est-ce que les gens ont un seuil de douleur qui va être abaissé, c'est-à-dire qu'on va sentir davantage, et c'est une réalité. Mais il y a un retentissement psychique qui interagit. Et quand on n'est pas bien, bah, ça joue sur la douleur.
Et sur le Covid long ?
Et sur le Covid long, et plus largement, je dirais, sur différents syndromes autour du Covid long, et notamment le syndrome de fatigue chronique, dans lequel il y a aussi l'encéphalomyélite myalgique qu'il ne faut pas banaliser, eh bien, on a pu observer qu'il y avait multi-causes à ça. L'inflammation de bas grade, dont on a parlé, le facteur traumatique social qui a été vécu, d'autres composantes psychosociales et émotionnelles, et qu'effectivement, il y a des lésions avec des dysfonctionnements d'organes, comme par exemple le syndrome d'hyperventilation, qui inexorablement entraîne un vécu émotionnel traumatique.
Docteur Benoulid.
Oui, c'est toujours assez paradoxal, parce qu'à la fois, on s'étonne de découvrir qu'il y a des mécanismes à l'origine des symptômes, ce qui est quand même parfaitement normal, puisque j'ai parlé de corps magique, mais je ne suis pas non plus magicien, je suis médecin. Donc bien évidemment, que ces mécanismes d'hyperalgésie, de d'hypersensibilité à la douleur, d'hyperalgésie secondaire, etc., sont des mécanismes... Algésie, c'est la douleur, voilà. Tout ça, ce sont des mécanismes qui aujourd'hui sont de mieux en mieux connus et qui existent. Il n'en demeure pas moins que les symptômes qui associent douleur chronique, dépression, trouble de l'attention, de la concentration, trouble du sommeil, brouillard mental, etc., eh bien aujourd'hui, on a quasiment une dizaine de mots qui permettent de les définir. Donc je trouve que la fibromyalgie, c'est très important parce que ça permet de donner une assise médicale, de dire c'est un véritable problème pour les patients, pour les employés, pour la famille. Ça ne dit pas grand-chose de plus.
Olivia Recassin, je rappelle que vous êtes la directrice de la rédaction du trimestriel Oui Demain, avec un article « Soigner l'invisible ». Certains scientifiques, pour soigner les maladies psychosomatiques, ont une approche biopsychosociale, c'est ça ?
Oui, absolument. En fait, c'est un collectif international qui rassemble 120 chercheurs. Pour la petite histoire, un des premiers à l'avoir initié, en tous les cas, a lui-même vécu dans sa chair, puisqu'il a déclaré un Covid long au printemps 2020. Donc, un certain nombre de médecins pratiquent cette approche. Et par exemple, Frédéric Réformaz, que nous avons interviewé, elle explique en fait que... Alors, on me reproche souvent de faire de la pseudo-science, parce qu'elle utilise l'hypnose, entre autres. Mais elle explique que ces patients, justement, ils guérissent. Ils commencent à guérir dès lors qu'ils comprennent comment ils fonctionnent. Mmh. Et que très souvent, il y a un traumatisme qui est à l'origine de ça. Et qu'elle explique aussi que la pandémie de Covid n'a pu offrir qu'un cadre exceptionnel, justement, au développement de ces troubles, notamment le Covid long. Enfin, c'est en partie, je pourrais expliquer le Covid long.
Voilà. Merci beaucoup, Olivier Recassin. Oui, demain, la revue pour changer d'époque, c'est disponible en kiosque. Pour terminer, docteur Aurélien Benoili, de quatre piliers évoqués dans votre livre pour soigner les maladies psychosomatiques. Un pilier vétérinaire, un pilier psychothérapeutique, un pilier somatique et un pilier placebo. Expliquez-nous en quelques mots.
Alors, en quelques mots, le pilier vétérinaire qui est toujours un peu choquant de premier abord, mais c'est qu'avant tout, quand on est médecin, on se doit d'être un excellent vétérinaire. On a une espèce un peu particulière qui est l'homo sapiens sapiens, mais il est hors de question de passer à côté de certains diagnostics, parce qu'à ce moment-là, on ne mériterait pas de porter le nom de docteur en médecine. Donc ça, on doit être absolument intouchable, personne ne l'est vraiment, mais sur la question du corps et des médicaments à mettre en œuvre et de tout faire. Mais simplement, effectivement, malheureusement, je pense que ça correspond presque à un quart de la bonne prise en charge. Les trois autres piliers, vous l'avez dit, c'est la psychothérapie, ou plutôt les psychothérapies, qui sont aussi une manière d'aller explorer l'histoire et le vécu d'un patient, mais aussi de le reconnecter entre ses émotions et son corps. Et puis, l'aspect somatique, c'est-à-dire le mouvement, ça peut passer par l'activité physique adaptée, ça peut passer par la kiné, l'ostéo, par toutes sortes de choses qui mettent en mouvement le corps. Et alors, l'aspect placebo, c'est un petit peu l'aspect magique, c'est-à-dire c'est d'aller justement, que le médecin soit aussi finalement un référent pour aller proposer tout ce qui n'est pas directement du ressort de la compréhension de la physiologie, mais de pouvoir le proposer. Un dernier point sur le placebo, il y a une forme de drame autour du placebo, c'est-à-dire que tous les médecins savent ce qu'est le placebo, ils savent, il n'y a pas une étude aujourd'hui qui sort sur un médicament qui ne soit pas testé contre le placebo, et pourtant rares sont les médecins qui vont venir proposer du placebo en disant ce que c'est, en n'ayant pas peur des mots, en disant que on a une approche un peu différente, mais dont on sait qu'elle est efficace, donc c'est presque coupable de ne pas proposer le placebo de manière quasi systématique à ses patients.
Un mot de conclusion en quelques secondes, docteur Chaboche.
En fait, ça nous invite à sortir d'une polarisation qui est actuellement installée dans notre société. Ça invite à se rencontrer, à se donner rendez-vous entre le corps et l'esprit, et à se connaître, se comprendre. Lire des livres sur la connaissance de notre corps, c'est une clé thérapeutique et c'est profondément humaniste.
Merci beaucoup, docteur Aurélien Benoili. Non, ce n'est pas que dans votre tête, c'est publié en poche chez Marabout, et vous avez également publié un roman de zombies qui s'appelle Rizet, R-E-Z-E-T. Merci beaucoup d'être venu. Merci, docteur Adrien Chaboche. Et merci, Olivia Recassin, pour votre revue. Oui, demain, dans un instant, eh bien, vous allez retrouver Nagui, sa bande originale. Demain, peut-on vraiment être célibataire et heureux avec le mensuel Cerveau et Psycho. Je vous attends nombreux dès 10h au 01 45 24 7000 et sur l'appli Radio France.